Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez CatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti.
John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion.
Ça va, Dave Mick, en calant sa balance, Dave Mick!
But I know you people don't understand what Karanai Baro.
Bonjour à toutes et à tous, on vous dit tout au CatchaCast parce que après un petit faux départ d'enregistrement, faute d'alimentation, comme qui dirait, on vous parle pas de nourriture parce qu'on était blindé, mais d'alimentation, d'énergie, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de CatchaCast estival, détente, toujours en extérieur comme le précédent, avec Mickaël. Salut Mickaël.
Bonjour.
Et avec Félix.
Bonjour ou bonsoir, parce qu'ici il fait nuit sur les quais de la Seine de Paris.
Et voilà, on a fait une redite pour vous parler. Cette fois-ci, bah, on s'est dit aucune limite, on va parler des derniers trucs qui nous sont tombés sur la tête. Le numéro vous arrivera très vite dans vos oreilles, puisqu'on va caler à l'actu. On va commencer par celui dont on parle, dont on voulait quasiment faire une émission entière. Will Ospreay, catcheur de l'année, point d'interrogation. Oui, non, peut-être.
Parfois.
Parfois.
Souvent.
Souvent. Mickaël, t'étais un petit peu plus partagé, peut-être. Ou tu disais que tu mesurais pas trop.
Oui, je disais que j'ai pas un bon souvenir de tout ce. Je trouve qu'il y a tellement de choses incroyables
oui. À
New Japan. Et à la WWE, parfois, non.
Lol.
Et donc, du coup, j'ai pas une image de ce qu'il a fait particulièrement cette année par rapport à l'année dernière. En fait, je mélange un peu tout. En fait, j'ai du mal à retracer tout ce. Mais c'est vrai qu'en fait, oui, il y a eu la New Japan Cup, du coup.
Mm-hmm.
Donc, comme moi, là, j'ai pas bien vu les matchs encore, à part la finale du BOTS.
Oui.
Donc, du coup, en fait, je pense qu'il me manque une partie, du coup, parce que ça, je pense que parmi ses meilleurs matchs, il y a quand même pas mal de matchs dans le BOTS. Problème.
Le Battle of
du
Super
coup, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu catcher pendant un moment en fait. Comme j'ai peut-être raté, peut-être que je ne l'ai pas vu catcher pendant. J'ai l'impression d'avoir été un peu loin de la. Comme j'ai raté ce tournoi-là et que ça a duré un ou deux mois, j'ai l'impression d'avoir été un peu loin de la New Japan en fait. J'étais un peu perdu.
Oui, mais loin des yeux.
Proche du cœur.
Proche du cœur.
Félix, pour Will Ospreay,
moi j'ai plus suivi pour le coup les deux tournois précédents, donc la New Japan Cup et le Best of Super Junior, où Ospreay s'est vraiment démarqué comme je suis toujours un junior, mais je suis aussi un heavyweight à la fois, et je vais vous le montrer. C'était le cas dans la New Japan Cup, notamment dans un match contre Lance Archer, donc qui est grand et Mastock. Et ils ont donné un super match. Mm-hmm. Et d'ailleurs ils vont se la redonner entre guillemets encore une fois au G1 Climax qui va venir en juillet-août.
Yes.
Il y avait ça, et puis il y avait en début d'année avec Wrestle Kingdom, il y avait toute son histoire avec Kota Ibushi aussi autour du titre Never. Donc là aussi contre un poids lourd techniquement. Et puis là au Best of Super Juniors, ça pas été le catcheur dominant comme Shingo Takagi, mais il a remporté le tournoi et il a montré qu'il était capable de jouer dans les deux camps.
Alors je te rejoins complètement sur ce dernier point. Alors moi je vais rajouter plusieurs trucs. Je vais commencer par le moins objectif du lot, c'est qu'il, c'est un mec qui a quand même l'habitude, comme d'autres catcheurs, vous me direz, mais lui particulièrement cette année a pas mal à avoir tourné dans des fédés ou en tant qu'invité. Notamment, on vous a fait un numéro dédié au show de la PC Super Clash 3 où il est venu par chez nous. Ça, c'était l'instant un peu chauvinisme et plaisir de d'offrir, joie de recevoir. Et donc là-dessus, effectivement, c'est un effet encore plus impactant. Mais pour continuer sur ta logique de la NJPW, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est toute cette arc, je dirais, dédiée à Chaos. En ce moment, on a une petite hégémonie Chaos qui va bien. Okada, effectivement, avec la New Japan Cup. Ishii qui reprend son titre, qui prend le titre Never.
Ouais. Après, c'est un Chaos qui est un peu dans tous les sens, parce qu'il fait se fait des mélanges avec les gars de la New Japan, vraiment, genre Tanahashi, Makabe, Taguchi, ouais, et tout ça. Mais... Donc, c'est un Chaos un peu différent de il y a quelques années où là, il y avait vraiment l'hégémonie.
On est d'accord, mais c'est-à-dire que, tu vois, moi, typiquement, qui ai moins cette vision, même si je continue de courir pour rattraper mon retard par rapport à toi, de la vision globale, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Tu sais, prends toujours l'adage à deux balles, plutôt l'adage basique de Stan Lee, un comics, c'est le premier comics de quelqu'un qui peut voir dans le monde. Moi, j'ai pas, à part les petites pastilles, pareil, encore une recommandation de John Kelly officiel qui prennent les écuries par écurie, stable par stable, et qui vous retrace l'histoire. De Kevin Kelly. J'ai dit quoi ?
John Kelly.
Excuse-moi, merci. Et en l'occurrence, voilà, je me disais qu'il y avait ça. Et puis, la victoire à la fois du Super Junior, je sais pas si tu as vu l'après-match, Michael, moi j'ai trouvé ça très rigolo, où il a fêté avec tous les potes du Chaos.
Oui, oui.
Ils lui ont chacun renversé la bière Asahi officielle, toi-même tu sais, sponsor. Et où surtout, à ce moment-là et ensuite à sa victoire au Dominion pour le titre Super Junior, il a complètement enfoncé la porte qui était déjà ouverte que tu viens de donner, qui peut être Super Junior et Heavyweight. Et surtout, là, il a dit, bon, on rigole plus, maintenant je vise le championnat. Et surtout, gros clash, grosse annonce, je m'installe au Japon.
Ah oui.
Donc ouais,
et en plus, c'est pas le seul dans le lot, il me semble. Il y a Ospreay, mais il y a aussi Juice Robinson qui a décidé, qui est un gros Américain comme il faut... qui aime son pays et compagnie, il a dit qu'il allait sans doute être vraiment full-time à la New Japan et qu'il va peut-être s'installer au Japon.
Ouais.
Et il me semble que Zack Sabre Jr. aussi, qui avait passé plusieurs années au Japon quand il était à la Noah, il va y retourner aussi.
D'accord.
Donc on parlait des Gaijins dans une précédente émission.
Ouais.
Bah, c'est un peu ça aussi. C'est un peu Ospreay qui mène la charge de ces nouveaux Gaijins japonais.
J'ai l'impression, ouais. Mais en tout cas, pour lui, ça s'inscrit dans une continuité très logique, pour un amour, je pense, très sincère au-delà du business pour le Japon, et de comment est-ce qu'il peut... D'ailleurs, on parlait de fascination morbide à l'émission précédente. Son discours, c'était un peu genre, je porterai sur mes épaules tant que ce sera possible. Quand t'as un mec comme lui ou Kota Ibushi qui dit ça, tu te dis, oula, enfin, ménage-toi quand même, garçon, parce que
on sait ce que t'es capable de faire. Un main event, Wrestle Kingdom, Kota Ibushi et Ospreay...
Je pense que dans 2-3 ans, Will Ospreay sera dans la même position qu'était Omega.
J'y pensais aussi.
Plutôt, moi, je dirais. Moi, je dirais plutôt même pas 2-3 ans. Je pense que ça va aller assez
vite. Il va y avoir le tour de Naito, il va y avoir le tour d'Ibushi.
Ouais, mais quand on voit à quelle vitesse ça a été pour White.
Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'était le projet de Gedo. Il voulait refaire le côté Rainmaker Shock, genre celui qui vient de nulle part qui devient champion. Là, Ospreay, c'est pas le même scénario, tout à fait.
Donc, voilà. Moi, je répondrai par l'affirmative, en tout cas. Will Ospreay, catcheur de l'année, en tout cas, sur son histoire, sur ce règne hégémonique.
Six mois de la fin de l'année, ça le sent quand même.
Sur la qualité des matchs, etc. Bon, allez, on s'enflamme. C'est l'été, il fait chaud. Donc,
je vais, comme d'habitude, je vais un
bien
peu
sûr,
faire
tu peux.
Donc, moi, si je veux critiquer un peu Ospreay, déjà, j'avais pas trop aimé qu'il donne une commotion cérébrale. À Ibushi dans leur dernier match, parce qu'il y va un petit peu il est stiff quand même parfois, et non, en fait, moi, il y a un truc qui me gêne un peu avec Ospreay. Alors, c'est marrant parce que c'est différent maintenant, mais ça me gêne toujours un peu. Il y a une période où j'adorais, où j'ai un peu découvert Ospreay, et où j'adorais ses matchs, mais il y a un truc qui me gênait un peu, c'est la façon dont il finit ses matchs. Alors avant, c'était bizarre parce qu'il y avait une période en fait où il avait un problème au cou, et tous ses matchs qu'il avait avec tout le monde, c'était en mode son adversaire essaie de lui briser le cou du début jusqu'à la fin du match. Et Ospreay passait par tous les martyrs du monde, toutes les douleurs et toutes les souffrances qu'on puisse imaginer. Et ça a donné des matchs, moi je trouve un peu déséquilibrés. Je trouve ça un peu bizarre quand il y a un match où il y a un catcheur qui vend, qui a l'air de mourir sur le ring. Et l'autre catcheur, même s'il a aussi de l'offense, en fait, il gère. Et à la fin, Ospreay fait ses move of doom et en fait gagne. Et c'est quasiment tous les matchs, c'était comme ça au final. Et ça me gênait un petit peu, même si le match était généralement super génial. Mais à chaque fois, ça termine un peu comme ça. Et maintenant, c'est moins le problème maintenant. Par exemple, là, contre Shingo Takagi, il était, même Ospreay était assez dominant pendant une grosse partie du match.
Ouais.
Mais en fait, j'ai toujours un peu un problème avec ces. Il a une espèce de séquence de coups un peu longue à la fin. Et moi, je trouve que c'est toujours bizarre de terminer un match avec une séquence un peu linéaire comme ça, parce que du coup, tu sais, en fait, là, à la fin du match là, que j'ai vu tout à l'heure, parce qu'on enregistre la même journée, à la fin du match que j'ai vu tout à l'heure, genre, il y a eu du suspense de tout, puis quand il a commencé à faire ses five moves of zoom, j'étais là, genre, j'ai pas regardé mon téléphone, je fais, ah ok, bah, c'est fini, c'est bon, je peux y aller. Et plié, moi, je trouve ça un petit peu. C'est marrant parce que j'ai le problème avec les matchs à échelle, par exemple. Les matchs à échelle, c'est très difficile. Pour moi, c'est bien quand jusqu'à la dernière seconde d'un match, il y a du suspense. Quand il y a une espèce de tunnel à la fin d'un match, c'est toujours un peu gênant. Et les matchs à échelle, c'est toujours gênant, par exemple, parce que comme c'est long de monter sur l'échelle et qu'il faut généralement que, genre les money in the bank, il faut que tout le monde est dégagé sur le ring. Et à un moment donné, il y a, ah bon, bah ça y est, c'est lui qui va gagner.
Il y a Brock Lesnar qui arrive.
Donc, du coup, on est toujours un peu en mode, ok, bon, bah là, on voit.
Rentre chez ta mère, comme dirait juste.
Ah, mais du coup, genre, en général, même quand c'est pas Brock Lesnar, on se dit, bon, là, c'est bon, maintenant il va gagner, donc on attend qu'il monte l'échelle et qu'il gagne, et c'est toujours un peu.
Ouais.
Et ouais, moi, j'ai un peu cette impression avec les matchs d'Ospreay, bizarrement, parce qu'à la fin, il y a toujours ce côté, il a un truc trop long à la fin et qui est généralement pas contré, en fait. Mais en même temps, c'est une tradition. J'ai remarqué ça à New Japan, parce que comme je l'ai découvert il y a pas hyper longtemps à New Japan, et je vois les différences avec le catch, enfin, avec la WWE, en tout cas. Il y a un truc que je vois jamais à WWE, que je vois souvent à New Japan, et c'est marrant parce que culturellement c'est un truc de rythme qui est différent. C'est qu'à New Japan on peut voir un truc, c'est genre le mec, disons un coup et un finisher, il fait son coup, son setup, il fait son finisher, ça marche pas, il refait son finisher et ça marche. Et ça, moi je trouve ça toujours un peu bizarre parce que c'est un côté, c'est redondant en fait. Moi quand je vois un truc comme ça, je m'attends à ce que la deuxième fois il soit contré, et c'est bizarre quand il n'est pas contré. Et ça à la WWE ils aiment pas trop ça, je pense. Tu verrais rarement un mec faire deux fois le coup, deux fois de suite le même coup pour terminer un match.
Ou alors il y a une séquence
après. Ça c'est pour.
Mais c'est
pour
culturel
le,
quoi. C'est
pour marrant. Le coup c'est bizarre parce que c'est l'inverse qui est reproché à la WWE, c'est que ils ont tendance plutôt à abandonner cette tradition là de le finisher, c'est la prise qui finit le match.
Ouais.
Là maintenant, enfin il y avait cette mode là par exemple avec John Cena il y a quelques années où il te faisait 5 FU, enfin attitude adjustment, et t'étais toujours pas mort.
Bah alors.
Et qu'au bout d'un moment, ça, oh. Ouais, ça dévalorisait la prise. Quoi.
Ce qui est bizarre, enfin, c'est juste que au niveau rythmique, c'est un truc, c'est bon, voilà, c'est un truc de scénarisation, mais au niveau rythmique, si tu fais un finisher que ça marche pas, logiquement, tout le monde s'attend à ce que le deuxième finisher, il y a un contre et que tu une autre séquence et qu'éventuellement tu refasses ton finisher après.
Je pense qu'on a
une autre prise.
Oui, on voilà. A potentiellement.
Mais que tu refasses deux fois de suite ton finisher juste l'une après l'autre, c'est toujours un peu étrange. En fait, ça arrive souvent à New Japan. Quoi.
On a potentiellement, je crois, un sujet pour une prochaine émission.
La
pour rester voilà, pour rester sur la logique. Oui, qu'est-ce
mais
que la philosophie.
Que, ouais, Ospreay, du coup, oui. Moi, j'ai un peu de mal avec sa séquence. De peut-être, il a quoi? Il a quatre. Il a bien 4 coups qui fait
maintenant,
à la fin.
Ouais, maintenant, il y a le.
Il y a les kicks, il y a l'espèce de head slicer aussi.
Je te fais le Robinson Special, là, l'espèce de tournée boulet avec le kick à la fin dans la nuque. Et puis après, je te place mon Huskutter, donc l'espèce de archéo sauter sur la corde. Et après, peut-être, je te place mon nouveau finisher, le Stormbreaker, ou je sais plus comment ça s'appelle.
Il me semble.
Il le place sur son épaule, ouais. Et le fait tourner.
Il a beaucoup de finishers.
Oui.
Ouais, voilà.
Oui, c'est aussi. C'est un
et
truc
parfois,
qui
il sort. Mais maintenant, il est plus trop dans cette mentalité-là de je te sors un Shooting Star Press ou je te sors un.
Oui, c'est beaucoup moins imposé. Bon, je sais pas. À voir si ça se maintient dans un truc brouillon ou s'il continue d'être
après,
plutôt dans un.
Peut-être que c'est sa méthode à lui pour dire maintenant c'est comme ça que je vais catcher. Je me limite à ce moveset-là et j'en fais pas trop, quoi. Parce qu'à la base, ce genre de style de j'ai 4 prises à placer et c'est fini. C'est un peu le truc comme ça, je sors pas de ma zone de confort qui pourrait m'entraîner à prendre trop de risques et avoir plus de blessures.
Je sais pas, le concernant lui, je pense pas trop que ce soit l'enjeu, mais on verra. À suivre.
J'aimerais bien qu'il soit un petit peu contré dans cette phase à la fin, ça serait plus rigolo quoi.
À voir. Les paris sont ouverts, de même que Michael et Félix, le clash Nouvelle Omega dans 3 ans. Pas.
Récemment avec Shingo, où il a voulu passer un Huskutter et que Shingo l'a attrapé.
Cette prise,
elle se fait pas mal contrer parce que justement, il a un nouveau finisher maintenant qu'il doit mettre en avant.
Ouais. Il y a eu tellement de contres que je t'avoue que oui, c'est fort probable. Ouais. autre écurie, stable, autre news, la NXT. Qui, on va dire, d'avis de ce qu'on a discuté avant de s'installer, ne nous transporte peut-être plus autant qu'il y a quelques années. Pourquoi, rapidement, ou quelle perspective, réjouissante ou pas? Alors déjà, un signe indicateur dont on a parlé, qui est quand même inquiétant, c'est peut-être un peu dur, mais ça peut être en tout cas une base pour commencer, le retour d'un ancien, donc à la NXT.
Le prince du selfie.
Voilà.
Tyler Breeze
qui revient parmi les siens comme Jésus.
Ouais, c'est le symbole d'un symptôme. Parce qu'il faut pas. Faut dire les
parler,
mots. Quoi.
Est-ce qu'on peut parler d'essoufflement?
C'est genre. Non, mais là pour le coup, c'est un symptôme. Quand il est revenu à NXT, c'était une promotion. Alors qu'à la base, c'est plutôt l'inverse qui est une promotion pour les catcheurs.
Ouais.
Même au niveau.
Pour les jeunes pousses, comme on dit.
Au niveau fictionnel, quoi.
Ouais, mais et ça fait très longtemps qu'il y avait des rumeurs d'un retour de. Enfin, que Ziggler arriverait là pour un peu redynamiser. Bon. Je sais pas. Ziggler, oui. Oui, il y a eu des rumeurs. Bon, après, les rumeurs, on peut faire un listing comme pas permis.
Aussi, hein.
Mais non, c'est un peu paradoxal parce que NXT, je pensais toujours. Quand même clairement le repère des très très bons matchs de la WWE. Bon, je veux dire, c'est là qu'il y a des.
On est d'accord.
Et ce qui est bizarre, c'est que. Oui, c'est une promotion pour quelqu'un. Enfin, clairement, un mec qui est jobber dans le main roster, c'est mieux pour lui d'être à la WWE. Même si je pense à la NXT, même si je pense que pour Breeze, c'est anecdotique parce que oui, là, ils ont été sympas, ils lui ont donné un gros match qui était franchement, moi, j'ai trouvé un petit peu. Par contre, un peu un downgrade pour
Dream,
le Velvet Dream, parce que c'est ça faisait pas rêver comme rivalité, on va pas se mentir,
c'est hein, certain,
alors que à la base il était quand même un peu dans le main event et tout, là il est un peu tombé dans la, mais bon, c'était pour faire plaisir à Breeze, mais je pense que Breeze, je sais pas s'il sera dans le prochain pay-per-view quoi, hein. Donc au final je sais
surtout avec le nouveau turnover qui arrive, avec ce tournoi là, je sais plus comment il s'appelle, le Breakout Tournament, oui. Où il y a tous les nouveaux signés de l'indépendant,
c'est intéressant, ça.
Qui arrivent avec les nouveaux noms qui n'ont aucun sens. Donc c'est difficile aussi, même si le roster de NXT est plus réduit entre guillemets, c'est galère de se faire une place aussi quoi.
Alors ça me réjouit un petit peu, mais je suis inquiété à d'autres niveaux, notamment le côté catch féminin de la NXT. J'ai l'impression qu'il est vraiment, qu'il a besoin vraiment d'un second souffle, puisqu'on continue d'avoir l'hégémonie Baszler et c'est mérité, même si c'est très maladroit. On en parlait en amont de son effectivement le fait d'être épaulé par ce qui était censé former les Four Horses Women, donc les quatre cavalières de l'Apocalypse avec Baszler, donc ces deux-là dont le nom sincèrement m'échappe et je m'en fous, et Ronda Rousey. Et puis surtout, bah, Yoshirai lors du dernier takeover qui était... je sais pas, est-ce que c'est pas à la hauteur ou mal le match mal booké?
Yoshirai qui est avec Kairi Sane et puis la dernière du trio qui est restée à la Stardom, Iwatani, qui avait été déclarée comme les trois meilleures catcheuses au monde, franchement, qu'est-ce qu'ils en font quoi?
Bah ouais,
je pense quand même que à la WWE, je les soupçonne d'avoir misé quand même assez gros avec Asuka et Nakamura, mais de rien, ils les ont quand même beaucoup mis en valeur. Ils ont beaucoup essayé. Je pense qu'ils s'y sont mal pris et que, bon, comme d'habitude, et qu'au final, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'ils voudraient, je pense. Et donc, je pense que là, en fait, ils sont un petit peu blasés. C'est-à-dire que là, ils sont un peu en mode on va se calmer un peu sur les Japonais parce que c'est gentil, mais après, qu'on le veuille ou non, ils ont beau être talentueux. On a quand même du mal à en faire des gros stars pour des problèmes de langue et tout et tout. Mmh. Et que donc, on va peut-être un petit peu. On était parti très très fort, on va peut-être un petit peu ralentir. Et donc, je pense que c'est un peu la situation qu'on a avec. Avec Kairi Sane,
il y a un problème de langage, mais par exemple pour Asuka, ça avait bien marché à NXT, je pense, parce que elle est venue après le départ de Sasha Banks, de Charlotte, de Becky Lynch, etc. Et donc il y avait ce manque aussi Asuka, elle était un peu toute seule au bout d'un, à un moment.
Oui, complètement.
Dans la division féminine de NXT, donc elle était dominante de facto, quoi. Oui. Et elle était super dans le rôle.
Et puis à NXT, c'est toujours le problème d'NXT, c'est qu'à NXT, les choses, le booking, c'est facile à NXT parce que le public est là, ils adorent les catcheurs, c'est les catcheurs.
Il n'y a pas besoin de faire grand chose.
C'est ce que j'allais dire.
T'as This is Awesome trois fois dans un match sans carrière.
T'as Mamma Mia.
Dans le main roster, il faut arriver à faire exister les gens comme des personnages auprès de gens qui sont un grand public. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est beaucoup plus compliqué et ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a moyen d'y arriver, je crois. Pour moi, faut essayer peut-être de laisser parler les Japonais. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs solutions.
Comme ils le faisaient avec la Lucha Underground, où les luchadors parlaient espagnol et ils étaient sous-titrés.
Ouais, mais c'est à la NWE, c'est
pas la même chose.
Ouais, mais y a pas la manque
mais c'est, ça a été fait, c'est possible, c'est ça que je veux dire.
Ah non, mais d'accord. Mais c'est la WWE, tu connais les œillères, hein, malheureusement.
Ouais, ouais.
Je les vois pas changer là-dessus, à moins de se prendre gros coup dans la nuque avec d'autres écuries, avec leur continuer à avoir des chutes d'audience telles qu'ils ont en ce moment, on verra, l'avenir nous dira là-dessus. Non, je suis un peu préoccupé, un truc qu'on partageait aussi avec Michael qui était...
Pour Baszler, moi je pense que c'est dans son intérêt, elle a eu un long règne, c'est dans son intérêt à elle de partir dans le main roster.
Oui, bien sûr.
Donc, oui, alors le problème c'est qu'en effet, tout à l'heure on en parlait, je pense que Triple H n'a pas tellement de moyens de protéger ses catcheurs une fois qu'ils sont dans le main roster. J'ai l'impression qu'ils commencent à vouloir les empêcher d'aller au main roster. En fait. C'est son seul moyen de les...
C'est fort probable.
Parce que je pense que plus longtemps ils restent à NXT, moins il y a de chances, enfin, plus ils vont arriver avec une aura qui fait qu'ils vont peut-être pas les massacrer.
Regarde Gargano, regarde Adam Cole, qui devait partir avec Ricochet et Aleister Black, qui ont été un peu gardés.
Et là, quand ils voient ce qu'ils font avec... Aleister Black, oh là 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 là.
Et même Ricochet, il fait toujours les mêmes
matchs.
C'est
promo Aleister Black là.
Non, on va pas partir sur le main roster parce que je pense qu'on va se faire beaucoup trop de mal sans être dans la facilité.
Off, on a lâché beaucoup de venin,
beaucoup de sel.
C'est dans son intérêt de, je pense, d'aller dans le main roster quand même. Et elle est là. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de mauvais avec elle, mais. Elle a quand même elle peut inspirer, je veux dire, les scénaristes même du même roster parce qu'elle est quand même assez, elle a une personnalité assez forte et tout.
Sacré carré.
Je pense qu'ils vont pas en faire une clown, une comique tout de suite quoi.
Je sais pas.
Vu ce qu'ils ont fait de Nikki Cross
sur le physique,
Nikki Cross pour moi, elle avait un gimmick catastrophique déjà. Moi, je peux pas supporter quand les catcheuses ont un gimmick de. Oh là là, je suis fafale. Parce que, en fait,
oui, mais c'était pas celui de. Non, moi je suis pas d'accord avec toi.
Attention, elle était dans tes boys, dans tes girls.
Elle le vendait autrement qu'une. Comment ça s'appelait ?
C'était
McCool qui jouait la folle, c'est ça ?
AJ Lee ?
Non, pas AJ Lee, McCool. Avant elle, non ? C'était pas elle qui était. Non ?
Je sais plus.
Mais c'est pas grave. Mais oui, pour moi, c'est du niveau au niveau dinguerie, même si c'est entre guillemets un peu différent, ouais, d'une AJ Lee pour le côté déjanté. Bon, Nikki Cross, elle est plus sur un côté complètement entre guillemets démente, même si c'est des termes dont je suis pas fan.
Et puis il y a le côté aussi, c'est la folle pour être la folle, quoi. Mm. T'as pas d'histoire derrière. Ils essaient même pas d'inventer.
Et ils sont en train de lui
une
enlever
histoire
ça.
Derrière. Genre, je sais pas, elle a eu des problèmes dans l'enfance.
Non. C'est une sanity
pas.
Et puis basta.
C'est juste
quoi.
Elle est folle.
Sanity, pardon. Mais bon, ils sont
je
en train d'en faire un massacre.
C'est, elle dégage. Enfin, tu peux pas la booker. Je veux dire à l'inverse de ce qu'elle dégage quoi. Au moins, je veux dire,
normalement c'est facile.
C'est une meuf badass.
Ce serait facile de la booker quoi.
Tu la bookes.
C'est Brock Lesnar en fille, c'est facile quoi.
De toute façon, on dit ça, on dit aux main roster qu'ils vont la bousiller, mais à NXT, ils la bookent déjà qui est comme une meuf qui triche avec ses copines, donc c'est quand même pas déjà extraordinaire.
En ce moment, c'est déjà pas top.
Mais ça serait bien aussi pour le roster, je pense, donc de NXT qu'elle parte en fait, hein, parce que. Parce que ça, tout le monde se heurte un petit peu à une défaite au final. Et
c'est mais après, ça, après et qui tu mets en succession ?
Bianca Belair,
c'est la seule. Mais
c'est la seule. Et t'as les restes
Maillon
classique. Non, je pense pas qu'elle soit suffisamment prête. Mais en tout cas, elle peut.
Ça peut lui permettre
d'évoluer, justement, de porter sur ses épaules.
C'est là que par rapport à ce qu'on dit sur NXT, il y a un peu une crise du roster. C'est-à-dire que. Ils ont pendant un moment, il y a une espèce d'âge d'or où ils ont embauché plein de grosses stars indées.
Ouais.
Ça devient plus compliqué. Maintenant, les gens vont ailleurs. Ça devient compliqué de trouver. D'ailleurs, pour tout le monde, c'est un peu la crise parce que en ce moment, tu fais ta fédération de catch pour aller trouver des gens qui ne sont pas déjà quelque part.
C'est
devient compliqué. Là,
quittons la WWE pour un Dernier mot, j'ai pas forcément de fédération en tête. J'évoque un petit teasing, je pense que je m'avance pas trop parce que il me l'a proposé lui-même, sachant que, petit spoiler, notre ami Raphaël était donc et peut-être encore toujours avec l'or au Japon, les Vénards, et c'est que possible. Vous doutez bien qu'ils ne sont pas uniquement allés manger des ramen et des sushis, ils sont allés voir du polo laisseux, et donc ils nous teasaient est-ce que ça vous dit qu'on vous fasse un petit récap. Donc on vous attend de pied ferme si vous écoutez ça et que vous n'êtes pas encore rentré.
Ah oui, grave.
Et donc on a vu circuler notamment des images de la DDT dans un espèce d'aqua boulevard magique.
Ça y est, on est revenu à l'âge d'or de la DDT où on faisait un gros show entier dans une espèce d'aqua boulevard japonais.
Entier, hein, parce que c'est au Japon.
Entière à ER. ça avait l'air très très cool. Perso, je l'ai pas encore vu.
Moi, le truc qui me vendrait du rêve, c'est qu'ils me disent qu'ils étaient à l'Aqua Boulevard en train de regarder le match. Là, j'en pourrais plus.
Ah, le deuxième show en France, ça serait cool. Hein.
Deuxième show ever. Donc, sur ce, messieurs, moi, je vous laisse la parole pour conclure cette petite pastille détente sur une fédé de votre choix ou une petite
petit
news comme ça.
Genre...
À découvrir ou un truc qui vous a marqué là dans l'actu, vu que c'était un petit peu le but de faire un truc. Quelque chose en mode détente.
Ce qui nous a marqué dans l'actu, parce qu'on en a parlé un peu en off, on peut peut-être en parler.
C'est
ça va être pas forcément point plus, mais c'est parce que ça me vient à l'esprit. C'est le traitement de EC3.
Oui. Oh là là. Quel massacre.
C'est vraiment déprimant, quoi.
Ouais. Moi, mon intuition, c'était presque comme il l'expliquait dans son interview avec Jericho. J'ai appris qu'ils étaient potes. Je me demande si c'est pas pour le faire payer, quoi, parce que ça fait un moment qu'il prend cher, quoi. EC3 dans son traitement où il est défoncé, il a même pas le temps de passer la rampe et de monter sur le ring, quoi.
On finit vraiment par se demander si c'est pas à un moment donné une espèce de réaction bizarre de Vince McMahon de dire genre, parce qu'il y a tellement parfois cette espèce de truc de, il y a un catcheur qui a été mal utilisé à WWE, puis il s'est fait un nom ailleurs et il revient en mode maintenant vous allez me respecter, maintenant je suis
respecte ma putain d'autorité.
Il garde même son nom.
Oui.
Ethan Carter.
Et en fait, le problème, c'est qu'on se demande si Vince McMahon n'est pas en mode reviens, tu vas voir, on va te respecter maintenant. Et puis, une fois qu'il est là, t'es toujours une merde, en fait. Non.
Tu vas pas rester dans le
bon. Et en gros, c'est juste une espèce de petite vengeance mesquine.
Mais
en fait,
c'est les vieilles mentalités, parce qu'on a l'impression qu'ils évoluent et compagnie, mais il y a quand même les vieux réflexes des années 80 où, genre, tu veux venir chez moi, mais d'abord tu vas devoir te mettre à genoux avant de pouvoir te relever, quoi.
Oui, mais ça, complètement, mais c'est vachement là. Moi, je continue à dire que un jour, il faudrait. On avait déjà parlé, je crois, de faire un podcast là-dessus. Il y a une culture de l'humiliation et du.
Oui.
Ce que j'appellerais du corporate bullying à AWE, qui, dans n'importe quelle autre compagnie, si c'était pas du catch, mais poserait des gros problèmes à la compagnie, quoi. C'est quelque chose qui est. Les choses qui sont faites. Mais même là, par exemple, il y a ce rôle-là, lundi dernier, il y a. Alors, c'est pas le mec le plus talentueux du monde, mais il est quand même assez charismatique et c'est pas un Simon Catcher. Il y a, comment il s'appelle, Elias.
Donc là, on est sur
lui aussi, le pauvre. Là,
on est le 22 ou le 23 au moment où on enregistre pour resituer Mickaël pour la date. Tu disais la semaine dernière passée. C'est pour resituer chronologiquement. Voilà. Et donc, Elias.
Donc, en fait, Elias, le truc, c'est qu'il y a eu un row où. Je sais plus comment ça a commencé, mais il a comme d'habitude il est arrivé pour faire sa chanson. Et il y a je sais plus qui est arrivé qui lui a fait un finisher. Et après il y avait un truc, comme en ce moment il y a une espèce de rivalité entre plein de mid-card pour la ceinture US de Joe. Ils arrivaient tous pour un match à plusieurs. Et ils sont tous arrivés. Et il y a une espèce de gangbang, on va appeler ça comme.
C'était pas pour poursuivre d'ailleurs la ceinture 24/7.
Non, là non.
Non, c'était pas ça.
Ils sont juste tous arrivés.
Simplement.
Il y a un mec, il y a Vince McMahon qui s'est dit, ça va être rigolo. Ils vont tous faire leur finisher à la suite, genre les 8, je crois, ou les 7. Ah, Elias, quoi. Et genre Elias, c'était comme ça, ils se prenaient les finishers tout le monde. Et tu dis, mais à un moment donné, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais en fait, c'est un catcher comme les autres, quoi. Je veux dire, enfin, là, il. Pourquoi il lui arrivait ça? Peut-être qu'il a dit une bêtise.
Non, mais non seulement.
Il a pas serré la main à Vince McMahon.
Non seulement c'est
veille,
un catcheur comme les autres, mais en plus c'est un des catcheurs qui, encore il y a quelques mois, il était hyper over, quoi. Mmh. Alors qu'il faisait pas grand chose.
Et ça ressemble à des punitions. Hein. Moi j'en ai parlé souvent.
Ah oui.
Je
vais
pas revenir là-dessus, mais quand Kevin Owens, il y a quelques mois, supplie à genoux dans une storyline pour garder son. Enfin, supplie Shane de garder son job. Quand il demande à un catcheur de faire ça, je suis sûr à 300% que c'est un message qu'il lui envoie. C'est-à-dire qu'il met en scène un truc à la télévision pour l'humilier et pour qu'il y ait une espèce de symbolique en lui disant bah, tu vas te calmer, c'est nous les boss, c'est voilà quoi.
De finir
et,
quoi,
et ça arrive hyper fréquemment à Adeleu. C'est une mentalité qui est très 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 malsaine et toxique quoi.
Il va falloir qu'on finisse par la faire cette émission sur les process de humiliation dans le catch. Ça viendra.
C'est juste un tease.
Ici 3 et toi Mickaël pour conclure un truc qui t'a marqué déjà, une reco une rapidement par contre on arrive doucement là, tu es un peu à court
non mais on va dire que je viens de parler de
tu viens de parler d'en fait de ce que voulais tu voulais parler Kevin Owens voilà. donc ça fait bah c'est très très bien non moi je bah, comme je vous disais tout à l'heure je suis très enjagué par de plus en plus de près et de loin par la DDT donc je pense que je vais encore plus sérieusement m'y plonger sans mauvais jeu de mots par rapport à ce que je vous écris tout à l'heure que la NJPW ça m'ambiance pas bien forcément quand une fédération ou des escabeaux ou des chiens ou des animaux peuvent être champions ça ne peut que me motiver donc je sais pas Félix peut-être comme Mickaël a parlé de ce que vous voulez parler tu voulais peut-être un tout petit extra pour
non,
finir
non mais j'avais parlé de EC3 mais on peut parler aussi peut-être de la All Elite Wrestling et de ce qui va se passer bientôt.
Oui, tout
est-ce
à fait.
Que,
très bonne idée.
Est-ce que ça va être le truc positif de la rentrée ou est-ce que ça va être le truc un peu pétard mouillé?
C'est évidemment la question. Donc là, il y a deux shows à arriver. Donc le premier pendant le CEO.
Il y a Fighter Fest à la fin du mois de juin.
C'est ça. Il n'y a pas une carte super excitante à
priori. Ouais, mais c'est une carte un peu expérimentale, j'ai l'impression.
Je suis quand même assez.
Et puis c'est pas des pay-per-view pour le coup.
Non.
Il y a Fight for the Fallen, donc c'est un show caritatif en juillet. Et puis après, il y a All Out. Là le pay-per-view le deuxième pay-per-view vraiment canon de la fédération en août
qui même si ça veut pas dire grand chose vu qu'on peut très bien hyper un événement comme ça c'est vendu encore plus rapidement encore que je crois même pas une demi-heure
avec un certain nombre de clients qui n'ont pas eu leur ticket de l'ordre de genre 100 000 personnes ou un truc comme ça paraît-il
donc moi je peux pour ce que tu dis je pense que sur les gros pay-per-view, ils vont vu les deux premiers qui étaient quand même de très bonne qualité, on va pas se mentir, qui étaient quand même vraiment spéciaux, que c'était pas simplement des bons matchs, c'était je veux dire il y avait
un côté
une vraie atmosphère, il y avait un truc spécial qu'on a l'impression de voir un truc spécial. Je pense qu'ils vont arriver à continuer à faire des gros shows. Après c'est quand ils vont devoir faire des trucs beaucoup plus
c'est
réguliers.
C'est ça ouais, qui est très inquiétant.
C'est là où il va y avoir le vrai test en fait.
J'arrive pas à me le représenter
en
fait.
S'il y a du déchet, je pense qu'ils vont quand même assurer quand il faudra quoi. Ils vont avoir des shows.
Mais moi déjà le point que je voulais vraiment soulever derrière ce sujet là,
ouais.
C'est ils nous promettaient déjà, alors peut-être qu'ils vont l'établir à partir de la rentrée avec leur show TV, mais ils nous promettaient déjà une présentation assez radicalement différente de la WWE, mais finalement à Double or Nothing, c'était pas si différent que ça.
Non, clairement pas.
Au niveau de la présentation, de la manière de filmer, du booking,
il faut
un bon pay-per-view de la WWE.
C'est ça.
Quoi. Ouais.
Non, mais
en termes de format, je veux dire.
Non,
pas
en termes
de qualité.
Oui, même en termes de booking, enfin ce que je veux dire, c'est.
Je veux dire la forme, pas le fond, tu vois.
Oui. Oh mais est-ce que tu peux vraiment changer complètement
même la forme, la façon de filmer, t'as l'impression qu'il commence un peu en mode stagiaire et puis que ça finit progressivement par être correctement filmé.
Ça, on avait
vraiment,
ensemble,
ça m'a vraiment choqué, mais
oui,
bon,
mais ça,
tant
encore,
mieux.
C'est des trucs qui peuvent être corrigés, quoi. C'est pas...
ouais. Bah, je leur souhaite.
Apparemment, ils ont pris des cadreurs à la New Japan, enfin, ou un réalisateur à New Japan, parce qu'ils ont. Ils ont un peu le style de New Japan de rater des trucs qui se passent sur le ring en filmant n'importe quoi. Donc,
après, à la New Japan, il y a tellement à cadrer. Le cri du cœur. Terminons là-dessus. Donc, les paris sont pris par rapport à on va dire, au futur.
Wait and see.
Wait and see. Et puis surtout, le rythme autre que pay-per-view pour la AEW, donc All Elite Wrestling. Écoutez les amis, comme d'habitude, hein, la petite pastille où vous retrouve-t-on, où vous parle-t-on, où échange-t-on avec vous. Félix.
Et bah sur Twitter.
Twitter principalement.
C'est @PHELYKS_G.
Ouais.
Et puis sur le web, exceptioncatchesque tout attaché .wordpress.com pour y retrouver des articles de fond.
Ouais.
Sur un peu tout, mais un peu de New Japan surtout.
Ouais, principalement, mais il y a vraiment, comme tu le dis, avec modestie, un peu de tout, et certains qu'on vous a pas mal publiés qui prolongent certaines des émissions, donc ça c'est plutôt chouette. Michael.
Et donc, moi, toujours artiste, voilà, des illustrations inspirées de jeux vidéo, on peut me trouver à Toriotto, O-R-I-O-T-O, sur Twitter, sur Facebook, partout. Voilà.
Parfait, allez-y, mangez-en. Et donc pour ma part, @d_mehdi. Et comme la dernière fois, de nouveau, petit cri du cœur, c'est l'été, donc on se lâche, on se détend. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, à noter si ça vous a plu. Sur iTunes, vous pouvez faire avoir du poids effectivement aux émissions d'Eds Podcast, donc Katchakast en particulier, et puis les autres, donc les 5 étoiles si ça vous botte. Laissez un commentaire aussi, pour nous c'est un bon indicateur, plus c'est détaillé évidemment, plus mieux c'est. Et puis voilà, portez-vous bien, et puis on verra peut-être avec un peu de chance une pastille encore plus tôt que prévu avec nos amis Raphaël et Laure, et puis surtout le G1 Climax arrive. Et puis,
G1 Climax,
voilà. Et puis vous vous doutez bien qu'on va pas vous laisser tout seul et toute seule comme ça. Voilà, merci de nous avoir écoutés comme d'hab, et on vous dit à la prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Retrouvez Katchakast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ Podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.